2016. C'est Gaëtan Gosselin et Jean-Pierre Gay avec vous. Salut Gaëtan.
Bonsoir Jean-Pierre.
Écoute, on est à quelques jours officiels de l'ouverture du Mobility.
Ça s'en vient très rapidement.
Ça s'en vient. On a eu un petit avant-première avec Keith Kuna qui a donné un spectacle vraiment intéressant. Là.
Puis, vendredi et samedi dernier. Mm-hmm. Un spectacle, je pense, qui a ravi le public.
Oui.
Tout à fait.
C'était des beaux moments, très poétiques aussi, en passant. Hein,
c'est un travail extrêmement original de Keith Kuna, qui a été présenté l'année dernière, qui a connu un franc succès et qui revenait cette année dans le cadre du Mois Multi, dans une formule identique, mais avec un public tout à fait approprié.
Mm-hmm.
Alors... ça débute bien, le festival.
Oui, ça débute bien. Et justement, ce soir, on a quelqu'un avec nous qui fait partie d'un ensemble, d'un groupe. Alexandre Bérubé. Salut, Alexandre.
Bonjour, Jean-Pierre.
Alors, Alexandre, tu fais partie, toi, d'un groupe, d'un collectif qui n'a pas de nom, je pense. Hein?
Ben, on est des étudiants, étudiantes de l'Université Laval, dans le fond. Moi-même, puis trois autres étudiants, étudiantes, dont Najwa Benani, Jean-Michel René et Diego Pena.
Et vous autres, vous faites, évidemment, si on parle avec toi ce soir, c'est parce que vous avez une pratique sonore. Est-ce que c'est le cas de tout le monde là-dedans ou c'est un groupe qui a été formé pour cette occasion maintenant?
Ben, je dirais que c'est un groupe qui a été formé pour l'occasion comme tel. On n'a pas toutes des pratiques sonores spécifiquement. Il y en a, on est trois au moins sur quatre qui a des pratiques, disons, qui ont des pratiques multimédia, si on pourrait mm-hmm. dire, comme telles, mm-hmm. T'sais, installatives, qui travaillent beaucoup avec l'objet, etc. Puis, il y a Diego qui fait figure de nébuleuse, on pourrait dire,
qui se promène un peu partout.
Ouais, ben c'est ça. On l'utilise beaucoup pour sa capacité à travailler avec les téléphones cellulaires, etc. Là.
Ouais. Donc, vous intégrez aussi dans votre travail des nouvelles technologies.
Ouais, absolument. Ça va être un travail. C'est un travail qu'on présente dans le cadre des cabarets mobiles aux ateliers de l'œil de poisson, qui est c'est un travail qui va être vraiment fait spécifiquement pour le Mois Multi.
Dans le cadre du Mois Multi, mais ce qui est particulier, c'est que ça va se passer dans un lieu qui ne se prête pas nécessairement à des cabarets, dans le cas des cabarets en général.
Oui, ben, je dirais que c'est un défi comme tel. C'est un défi assez complexe quand même, mais qui... vu nos pratiques comme telles, qui sont généralement contextuelles, je dirais que c'est un très beau défi.
Okay. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que vous habituez, vous vous adaptez au contexte dans lequel vous allez travailler, mais au plan sonore, c'est quand même particulier?
Oui, absolument. Ben, je dirais que c'est ce qu'on entend par les pratiques contextuelles, au sens où vraiment on va s'adapter au milieu. Mais c'est quand même important de mentionner, justement, c'est ça, que nos pratiques sont pas spécifiquement sonores. Par mm-hmm. exemple, on parlait avant de rentrer ici en studio que ça arrive, je dirais que le son fait figure et il fait partie finalement d'une sorte de complexe entre les objets, les images, le texte, etc. Puis ça donne que dans le cadre du cabaret mobile du Mois Multi, on utilise le son mm-hmm. comme un de ces éléments-là. On a réussi à y trouver une place tout de même assez importante à travers les autres éléments que je viens de nommer. Puis, c'est ça, ça va être, oui, un certain défi que de travailler le son comme tel dans les ateliers de l'aide de poisson, mais il en reste pas moins que c'est possible, puis...
J'imagine que vous allez utiliser le matériel qui est dans l'atelier comme instrument.
Par exemple, chose certaine, c'est qu'on fera pas un concert de
cirons.
Ouais, de cirons, de bansi, de perceuses, etc. Je dirais qu'on utilise par exemple les haut-parleurs ou la radio de l'œil de poisson. Mais je dirais qu'on c'est ça au niveau sonore, ça reste plutôt, par exemple, des éléments. On va utiliser nos voix, entre autres. On utilise, mm-hmm. comme on parlait plus tôt, là, les nouvelles technologies, etc. Donc, il y a une place pour... qu'est-ce qui est possible d'être fait avec tous les jeux. On parlait d'utilisation de la voix, utilisation du feedback, entre autres, qui mm-hmm. peut être fait entre un téléphone et un ordinateur quand ils sont à proximité. Donc, c'est ça. Ça va être des jeux sonores à l'intérieur des espaces de l'atelier.
Oui, puis dans l'atelier comme tel, il y a quand même deux niveaux. Il y a une galerie supérieure, puis je peux appeler une galerie, là. Il y a un deuxième étage, puis un premier étage. Allez-vous travailler avec cette idée-là aussi?
Ben c'est sûr que les espaces sont assez surprenamment vastes. Tu parles de la mezzanine.
La mezzanine, oui.
C'est sûr que on a cherché à occuper le plus possible l'espace des ateliers. On voulait pas prendre seulement un petit coin, par exemple, puis laisser le reste vide ou presque. Donc, oui, on va utiliser la mezzanine comme telle. Il va avoir un jeu de hauteur, si on pourrait dire, là, entre le plancher et l'espace de la mezzanine.
Puis, compte tenu que vous êtes quatre là-dedans... C'est quatre, hein? Vous êtes quatre, peut-être pas cinq.
Ah, on est quatre.
Vous êtes quatre. Ouais, quatre. Ça va fonctionner comment? Avez-vous déjà un plan de match avant d'arriver dans l'espace? Ou c'est un peu sur place que vous allez, ou si vous avez déjà une certaine grille de travail?
Ben, c'est sûr que, tu sais, l'équipe de l'œil de poisson, ben, l'équipe de l'atelier, entre autres, là, je pense à Antonio, Francis et Fred, nous ont quand même été assez, ils ont été assez souples pour nous permettre de pratiquer dans les derniers jours, dernières semaines, là, malgré que ce soit leur milieu quotidien, leur milieu de vie, etc. Fait que oui, il va y avoir des trucs de préparer
à l'avance.
Ouais, ouais. Préparer à l'avance, c'est peut-être plus facile à dire. Puis c'est sûr que le matériel technologique, si on pourrait dire, va être préinstallé. Donc, on pourrait dire, je sais pas si je dirais qu'on n'agira pas nécessairement selon une chorégraphie précise, mm-hmm. mais on pense à notre truc un peu depuis quelques temps déjà.
Vous avez une stratégie un peu dans la tête, ah, vous n'avez rien, vous n'avez pas de plan arrêté, ça va dépendre sur place de comment ça va se passer, puis tout ça.
Ben, c'est sûr que ça va dépendre aussi des gens qui sont présents, de l'atmosphère, etc. Mais je dirais qu'il y a déjà certaines stratégies, comme tu peux dire, il y a déjà un certain planning qui a été fait, puis qu'on l'espère va bien se dérouler.
Ben, on va faire une petite pause, Alexandre, avec quelqu'un que tu nous as proposé, Thomas Bégin, qui est un artiste sonore que t'aimes beaucoup. Si t'avais quelques mots à dire sur Thomas Bégin, comment tu le présenterais?
Ah, Thomas Bégin, ben, en fait, ça a été un professeur, professeur invité à la Fabrique, à l'École des arts visuels, à l'hiver dernier. Si je peux le décrire dans sa pratique audio, je dirais que j'apprécie grandement son esprit de recherche. Mm-hmm. Quelqu'un qui est très connaisseur dans ce qu'il fait, vu entre autres une petite formation au niveau technique, sciences naturelles, etc., qu'il a pu faire, là. Puis je trouve que ça transparaît grandement dans son travail d'installation, son travail sonore, etc.
Mm-hmm. Ben, on va l'écouter. Gaétan, t'as déjà entendu cette pièce-là? Mais pas celle-là, mais quelque chose qui s'apparente à ça.
Ben, en fin de compte, c'est un extrait de concert, je vais dire ça comme ça, okay. de Thomas Bégin, réalisé en 2011 à la Galerie Arcade à Marseille. C'est un extrait d'un concert performatif. C'est mm-hmm. un artiste qui travaille avec la guitare électrique et qui il manipule par ailleurs différents matériels sonores.
Mm-hmm. Alexandre, on se disait hors d'onde qu'on avait entendu quelque chose qui ressemblait à ça dans le cadre de la manif d'art.
Oui, dans le cadre de... Ben, je suis pas certain. Ben, en fait, c'est bien... est-ce que c'est Full Spectrum?
C'était Full Spectrum, oui.
Ben, c'est ça, oui. On parlait justement avoir vu ça dans le cadre de la... Ben, si je me trompe pas, en fait, dans le cadre de la manif 6, encore là, je me rappelle pas le nom des... Mm-hmm. De cet événement-là, mais je crois que c'était commissarié par Eric Mattson, entre autres. Puis par après, on l'a aussi revu dans les cabarets du Mois Multi, mais mm-hmm. cette fois-là au sol du cercle. Ouais.
Avec une performance qui était comme en circulaire. C'est un peu l'effet qu'on avait l'impression de ressentir là, dans l'extrait sonore qu'on a présenté. Donc, vous allez vous présenter au Mois Multi.
Oui.
Tous les quatre. Tu me disais tantôt qu'il y avait Antonio, qui est un des techniciens à l'œil de poisson, qui est aussi un musicien. J'imagine qu'Antonio a dû vous donner des bons conseils par rapport à l'utilisation de l'espace.
On a pu parler ensemble de son, on a pu parler ensemble de musique, mais... on a pu parler ensemble de l'œil de poisson, on a pu parler ensemble de beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a eu quand même la finesse d'esprit de
vous laisser aller.
Exactement.
Ah, ben ça c'est bien.
Ouais.
Parce qu'Antonio, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique, c'est un gars qui aime beaucoup les percussions, on trouve.
Oui, il nous en a fait part aussi.
Donc, ça va se passer dans le cadre du Mois Multi. Et là, avez-vous une stratégie, vous autres, quand vous allez travailler tous les quatre ensemble?
Oui, bien, assurément. Je dirais, je ne sais pas si je dévoile quelque chose en parlant. Non, mais assurément, on a une stratégie. Assurément, on a certaines pensées en tête. On souhaite... je dirais, on a certaines questions, surtout. C'est sûr que quand on travaille un espace qui est déjà aussi chargé que ces ateliers-là, tu sais, chargé de plein de manières, autant au niveau de... Tu sais, pour quelqu'un qui est jamais rentré aux ateliers de l'œil de poisson, je veux dire, c'est rempli. Il y a autant, ouais. Ben, je veux dire, il y a tous les outils possibles, entre autres, mais il y a toute une histoire puis mm-hmm. qui transparaît aussi à travers les objets. Donc, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut investir, travailler à l'intérieur même de ces ateliers-là, à l'intérieur desquels il y a déjà des acteurs, des occupants quotidiens qui les investissent. Donc, je dirais que cette pensée-là, ces questions-là autour du fait de... Est-ce que... Autour de l'appartenance au lieu, autour mm-hmm. de l'attachement au lieu, est-ce qu'on respecte les
habitudes.
Les habitudes des...
L'esprit de cette place-là aussi.
Exactement. L'esprit, c'est un bon mot, je pense, pour... Mm-hmm.
Parce qu'effectivement, c'est un atelier, mais c'est un atelier de création aussi. C'est un atelier... C'est pas un atelier... d'ouvriers dans le sens le premier du terme. C'est des gens qui travaillent à faire des objets d'exposition. Donc, il y a un esprit là-dedans artistique dans cet atelier-là.
Oui, assurément. Puis, je veux dire, même si ça se trouve à être un milieu de fabrication important ou un atelier important dans le milieu des arts à Québec, entre autres, ça aurait pu être tout autre. Il aurait quand même fallu, je veux dire, travailler à partir d'un esprit autre ou mm-hmm. quelque chose comme ça. Mais là, ça donne à être dans les ateliers comme tel. Ariane Plante, la commissaire du Mois Multi, qui nous a proposé de travailler dans ces lieux-là. C'est elle qui a eu cette idée-là, précisément de travailler là.
Mm-hmm.
C'est elle aussi qui nous a approchés pour nous demander si on était intéressés... de travailler dans ce lieu-là précisément. Parce que c'est important de dire aussi, chose qu'on n'a pas dit depuis le début, qu'Ariane souhaitait une collaboration entre le Moi Multi et l'École des arts visuels. Donc, c'est de cette manière-là que le projet a pris naissance, finalement, en premier lieu. Là, c'est...
Tu parles de l'École des arts visuels, mais tu parles aussi de Méduse.
Je parle également de Méduse, c'est ça. C'était comme, je dirais que c'est un complexe de choses. D'une part, d'intégrer des étudiants mm-hmm. qui sont toujours au niveau du bac, puis ensuite, de faire des activités alentour de Méduse même, plutôt que de faire des cabarets, par exemple, qui s'éloignent de Méduse, etc., mais de rester à l'intérieur, soit dans les centres d'artistes, etc., mais aussi dans les milieux non occupés habituels.
Puis comment s'est faite la sélection des quatre étudiants qui se sont retrouvés là?
Ben, je dirais qu'Ariane m'a abordé, puis m'a demandé de coordonner une petite équipe. Puis Jean-Michel, Najoua et Diego sont des gens avec qui j'aime particulièrement travailler. Donc, mm-hmm. je les ai approchés, puis il n'y en a aucun d'entre eux qui a refusé de joindre à l'équipe. Là.
Et la troisième?
La troisième.
Et la troisième personne?
À la troisième, il y a Najoua, il y a Jean-Michel, il y a Diego. Puis les trois, c'est ça, ont accepté. Okay. Ouais.
Donc, on peut entendre ce cabaret-là, c'est quand que ça va avoir lieu?
C'est le samedi prochain.
Bon, donc, samedi prochain, donc il s'en vient. Ouais.
21h.
21h.
Oui.
Ben écoute, Alexandre, c'était bien agréable. Gaétan, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Ben, qu'Alexandre nous quitte, on pourrait entendre une seconde pièce de Thomas Bégin,
oui.
qu'on avait inscrit au programme, une pièce qui s'intitule Exception, qui est un extrait de concert. Tantôt, j'ai créé le doute dans l'esprit d'Alexandre parce que dans Full Spectrum, il y a utilisation de moteurs industriels, d'amplificateurs, de guitares dans ce projet-là, mais pas de guitare en tant que telle. C'est vraiment un dispositif là où on utilise des stratégies avec les machines sonores, je dirais, alors que dans le projet Exception qui était présenté à la Fonderie Darling, là, on a eu une utilisation des effets Larsen avec la guitare électrique et d'autres bidules électroniques. Alors, on écoute cette pièce qui est un extrait d'un projet plus global ou d'une soirée plus globale qui s'appelait Invention.
On va l'écouter.
Merci. Thank you.
Alors, c'était donc, Alexandre Saint-Onge, mais...
Thomas Bégin.
Thomas Bégin. Ben, parlant d'Alexandre, merci d'être passé par chez nous.
Ça fait plaisir.
Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, à part ce projet avec tes trois autres collègues, là?
Je dirais que l'avenir est assez ouvert encore. Puis,
oui.
C'est ça, je termine mon baccalauréat en arts visuels cette année. Donc, il va y avoir l'expo, la fameuse expo des finissants qui s'en vient au mois de mai. Puis, je vais travailler à ça tout le restant de l'hiver. Mais sinon, des projets comme tels, je dirais que ça va être à construire à partir de là. Ça va être un...
Toi, est-ce que le son va faire partie de tes préoccupations d'artiste?
Ah, assurément, je pense qu'il en fait...
Déjà partie un peu,
Il en fait partie depuis, justement, là, mon entrée, je dirais que c'est la... différents cours à l'intérieur de la fabrique qui m'ont donné cette piqûre-là du son, entre autres. Mais comme je dis, c'est j'ai jamais une pratique d'art audio spécifiquement. Là, c'est vraiment un intérêt premier pour l'objet, aussi pour le texte, pour l'image, puis le son s'imbrique à travers tout ça. Puis je dirais que si il peut trouver sa place, ben je lui laisse simplement.
C'est un moyen comme un autre.
Exactement, oui.
Ben merci d'être passé chez nous. Puis
ça fait plaisir.
On va vous souhaiter beaucoup de plaisir au cabaret du Mot Multi avec tes trois collègues.
Oui.
Alors, Gaëtan, on s'en va en pause publicitaire avec...
Un extrait d'une œuvre d'Alexandre Saint-Onge réalisée dans le cadre du festival d'intervention sonore organisé par Rick Matson en 2014, qui s'intitule Les Voisins. C'est le numéro 11, c'est réalisé par Alexandre Saint-Onge.
Du 14 au 18 février, la Bourse Rideau est de retour à Québec pour sa 29e édition. Plus de 1000 participants sont attendus à Québec pour cet événement qui met à l'honneur la danse, la musique, le théâtre et la chanson. Pour tout savoir sur le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique, CKRL présente Bourse Rideau, animée par Tania Beaumont, diffusée en direct du Centre des congrès de Québec le mercredi 17 février de midi à 14h. Diffuseurs, producteurs, conférenciers, artistes et chroniqueurs seront présents pour vous faire vivre leur Bourse Rideau. Une collaboration de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, Rideau, CKRL 89.1. Adoucissez votre hiver et vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Au rendez-vous, une mystérieuse cabane de pêche dans le parc Saint-Roch, un concert immersif envoûtant, un théâtre sonore d'ombre et de lumière, une installation dont vous êtes le héros, des performances ludiques et des soirées festives uniques. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous convient à faire la découverte de ces œuvres hors du commun lors de cette grande fête multi. Le Mois Multi, du 3 au 27 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. Moismulti.org.
Première Ovation vous invite à découvrir les talents émergents de Québec. Jusqu'au 6 février, Premier Acte présente la pièce « Sauver des vies », une production du collectif du Vestiaire et une mise en scène de Pascal Renaud-Hébert. Cette pièce pose un regard sur la mort et les manières de l'apprivoiser, chacun à sa façon. Quand tout se déconstruit autour de nous, mieux vaut s'en tenir à ce qu'on fait de mieux. Visitez premièreovation.com et premièracte.ca pour en apprendre plus.
Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Deuxième demi-heure de la Croche-Oreille, toujours Gaétan Gosselin et Jean-Pierre Gay avec vous. Si vous voulez nous rejoindre par courriel, par exemple, vous faites crocheoreille@gmail.com. Et si vous voulez aller faire un tour sur notre site que Gaétan entretient, ou si vous voulez voir les œuvres qu'on a passées, ben c'est le www.lacrocheoreille.wordpress.com, la Croche-Oreille dans un seul mot. Deuxième demi-heure, donc, dans un tout autre domaine, on a rencontré la semaine de cette semaine André Dubois, qui est un artiste sculpteur de Québec et qui travaille le bois, qui travaille les matériaux, la pierre, l'acier, et qui a créé des œuvres assez importantes, impressionnantes, hein, Gaétan, qui sont qu'on retrouve dans l'espace public du centre-ville de Québec, et qui s'appelle les Attracteurs. Il y en a une trentaine, je pense, Gaétan, trente quelques autour, qui sont dans trois endroits principaux du centre-ville.
37, ouais, oui. Si tu me permets, Jean-Pierre, ouais, 37 œuvres qui sont réparties dans la ville et qui sont le fruit d'une commande publique, il faut le rappeler, de la ville de Québec. Un projet qui prend source là, il y a tout de même quelques années et qui aboutit avec le lancement il y a quelques mois.
Il y a quelques mois. On peut les voir, ces attracteurs-là, dans le parc Saint-Roch, le fameux parc Saint-Roch là, qu'on voit au pied de la côte d'Abraham, aussi dans la place de l'université, de même que la place qui est en avant de l'église Saint-Roch, qu'on appelle le parvis de l'église. Principalement, c'est à ces endroits-là qu'on voit ces espèces de grosses structures métalliques qui représentent un peu des grands personnages que moi je trouve un peu froid, c'est quand on voit ça, mais par contre quand on entend le son, moi je trouve que ça donne un aspect organique à ces grandes structures, peut-être un peu impersonnelles qu'on peut voir, mais qui sont regroupées, qui forment des groupes de personnes, des groupes de formes, on a l'impression de voir des groupes de ces structures-là, et il y a un son qui émanent de ces attracteurs-là et qui leur donnent un certain côté organique, je dirais. Alors, on a donc rencontré André Dubois qui nous a parlé justement de ce projet qui occupe l'espace public. Puis on va commencer tout de suite par un petit extrait sonore de ça, Gaétan.
Allons-y.
Mmh. Dubois, bienvenue à la Croche-Oreille.
Oui, merci de me recevoir. Croche-Oreille.
André, on est avec toi aujourd'hui pour parler d'un projet qui occupe un espace assez important dans la ville de Québec, en plein cœur de la ville, qui s'appelle Les Attracteurs, en plein cœur du parc Saint-Roch, où il y a des curieuses de sculptures qui, en plus, plus curieusement, sont dotées de sons. Ça vient d'où, cette idée d'investir ce lieu-là de cette manière?
L'idée de base, c'est d'envahir le quartier et de créer un parcours interactif. Et les sculptures sont comme des points. Le parcours est ponctué de 36 sculptures, dont 17 qui sont interactives. Mais l'idée de base, le concept développé par la firme d'architectes côté Les Cardas et moi-même, l'idée c'était d'envahir le plus grandement possible le cœur du quartier, de se répandre jusqu'à la bibliothèque Gabriel Roy, le parvis de l'église, et en fait d'occuper l'espace et de créer un nouveau territoire de l'art. C'était notre prétention, puis ça l'est toujours.
Oui, d'autant plus que la culture est une préoccupation de la ville, et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'art dans cette ville, ça fait partie, je pense, des projets. Et celui-là, ben, on le voit bien, il occupe une bonne partie du centre-ville.
Oui, il occupe une bonne partie. On part, si vous voulez, de la rue Saint-Vallier et le bas de la côte d'Abraham. Le trajet, on peut dire qu'on part de cet endroit et on se dirige jusque sur le parvis de l'église Saint-Roch. Et entre ces deux pôles, il y a le jardin lui-même et la place de l'université. Donc, c'est quatre endroits qui sont quand même très fortement marqué par la collectivité. Nathalie Côté en parle dans son article de la revue Inter. Ce sont des endroits marquants où il y a eu des, par exemple, l'événement Occupation. Il y a eu aussi un malheureux événement pas loin du parvis Saint-Roch qui a enlevé la vie à une personne. Et c'est vraiment un coin que les gens diraient hot. J'aime pas beaucoup le mot, mais bon. Alors nous, notre façon d'intervenir, c'est d'amener dans tout ça le parcours. C'est un parcours à la limite qui est poétique, parce qu'il faut quand même que les gens qui se promènent, les spectateurs, les promeneurs, les touristes, les contribuables, en se baladant, ils créent leur propre parcours. Et c'est là que la poésie de l'œuvre se dégage, parce que sur les 17 sculptures interactives, d'abord on peut en actionner plusieurs à la fois, et il y a du son qui se dégage et de la lumière de ces 17 sculptures. C'est le vrai défi technologique, parce que au départ, l'appel d'offres de la ville et du ministère de la culture, c'est d'y aller d'une œuvre qui va rallier art, design et technologie. On est allé même plus loin, jusqu'au savoir-faire très artisanaux des gens de la fonderie d'Inverness. Donc nous, je prétends qu'on fait art, design, technologie et savoir-faire, on pourrait dire métier d'art. Si vous regardez la facture des sculptures, vous voyez vraiment par leur couleur, leur texture, que c'est dans l'esthétique même de l'œuvre. Et donc il y a une partie de la poésie aussi dans la facture comme telle. Mais la poésie vient surtout du fait que ce parcours-là, il est silencieux si vous ne lui parlez pas, mais si vous prenez le temps de vous y arrêter, c'est déjà quelque chose de prendre le temps de s'arrêter dans un centre-ville. C'est une invitation à visiter le quartier autrement. Et c'est très dans la mouvance actuelle des experts mondiaux qui viennent donner des conférences sur ce que devraient être les quartiers centraux. On parle de plus en plus de donner l'accès aux piétons. On parle de plus en plus de faire une ville qui est conviviale, avec des bancs, avec des bornes interactives, avec des sculptures, avec toutes sortes de en fait des fontaines, des arbres. Comme commencer, on plante des arbres. Et tout ça fait que le centre-ville devient un lieu de vie agréable. Et c'est un signal, les attracteurs lancent un signal vers cette voie-là. C'est une autre de nos prétentions.
Oui, mais justement, tu les as appelés les attracteurs. Donc, ces sculptures sonores, parce certaines ont du son, attire les gens? C'est leur rôle?
Oui, les attracteurs. Évidemment que l'attracteur, les gens nous disent, ah, c'est-tu parce que c'est une attraction? C'est pas une attraction clownesque ou si vous remarquez, l'œuvre est presque discrète, c'est-à-dire que chaque sculpture est très filiforme, c'est dans son esthétique même, c'est dans sa nature, c'est le regroupement de tout ça qui fait que vous voyez que ça trace un parcours. C'est ce qui va attirer les gens, et le fait de les avoir disséminés fait que les gens se demandent, en parcourant jusqu'au prochain coin de rue, ils se demandent s'ils vont en découvrir d'autres et d'autres et d'autres. Ça, c'est dans le concept global. On envahissait quasiment tout le quartier. Alors là, le pragmatisme nous a rattrapés.
Les budgets,
j'imagine. Oui, le pragmatisme, c'est monsieur, c'est, disons que c'est le banquier ou la banquière. Bon, alors, mais quand même, le concept, c'est cela, c'est de faire en sorte que les gens soient attirés d'un point à un autre. Ça explique un peu le titre, les attracteurs. Découvrez le quartier autrement.
Moi, quand je les vois, il y a comme une idée de grands sages qui sont comme au-dessus, parce qu'ils ont quand même une mesure assez, ils sont assez démesurés par rapport aux êtres humains. Ils ont tous un peu comme le dos voûté. On a l'impression d'être face à des grands sages qui, quelque part, guident les gens dans le centre-ville.
Ouais, ils sont peut-être pas si sages que ça, mais j'aime bien ta réaction. Ils ont pas vraiment le dos voûté. Ce qui arrive, c'est qu'ils sont comme une chorégraphe le disait récemment, ils sont entre deux. C'est presque, si on pense à un grand dessin animé. L'autre, la troisième de mes prétentions, c'est de dire que tout cela constitue un grand dessin animé au cœur d'un quartier qui s'anime beaucoup par le dessin. Et ils sont dans un état entre l'équilibre et le déséquilibre. Ils sont sur un mouvement arrêté, mais on sent qu'avant d'être arrêté là, ils étaient dans un mouvement précédent et il va y avoir un mouvement ensuite. Et je proteste, ils n'ont pas le dos voûté, ils n'ont absolument pas le dos voûté. Ils sont en action, mais on a fait un instantané, c'est-à-dire qu'on a fait un arrêt sur image. Est-ce que ça vous plaît, ça?
Oui, moi ça me plaît, parce que dans le fond, tout mouvement, on pourrait décomposer n'importe quel mouvement, puis ça donne à la fois des gens qui sont en mouvement ou arrêtés ou quoi que ce soit. Donc effectivement, il y a du mouvement dans l'arrêt. André, l'aspect sonore de ce travail-là est important. C'est assez exceptionnel qu'on ait dans le milieu des arts qui sont dans la ville ou dans une ville, de voir des œuvres artistiques qui sont à la fois sculpturales et sonores. C'est rare, et cette fois-ci, c'est quand même important. C'est pas juste une sculpture qui est sonore, c'est un ensemble de sculptures et dans des lieux différents. Donc, c'est l'aspect sonore est important dans ce travail-là. C'est venu comment l'idée d'associer ces attracteurs à du son?
Bien, au départ, je pense que la ville était assez audacieuse dans sa commande. Elle voulait une œuvre audacieuse et innovatrice. Donc, nous, les concepteurs, à la base, on s'est dit c'est évident qu'on va proposer une œuvre qui va allier sinon le vent et la neige comme tel, quoique ils sont toujours bienvenus, mais on va allier un élément de lumière et le son. Et plutôt que d'aller chercher sur Internet des sons, qui sont gratuits un petit peu partout, moi j'ai tenu, et les concepteurs ont tenu dès le départ à s'adresser à des musiciens. Finalement, nous avons fait la sélection de René Lucier, parce qu'on tenait absolument à ce qu'un créateur participe à l'œuvre, et c'est son œuvre qui est en relation avec les éléments sculpturaux. Il a travaillé spécifiquement par rapport aux endroits, par exemple sur le parvis de l'église Saint-Roch, il y a trois interactifs à cet endroit, donc chacun a son propre son, et il a été créé en fonction du fait qu'il y avait deux voisins, puis ces voisins-là se retrouvent au parvis et non pas sur la rue Saint-Vallier. Il a vraiment créé une œuvre qui est intégrée dans notre œuvre, et je suis très fier de ça, parce que René Ducey, c'est un être très reconnu, puis il a travaillé fort là-dessus, et évidemment, la commande était très très difficile, parce que moi, je demandais, je voulais pas qu'on reconnaisse des instruments de musique comme tels, je voulais qu'ils me produisent des sons inouïs. Mm-hmm. Alors, c'est facile à dire, crée-moi des sons inouïs, René, mais il m'a dit que la tâche était presque un pari impossible. Alors, ce sera à vous de juger qu'effectivement, oui, c'était possible, mais c'était un grand défi pour lui. Puis je suis très content de l'avoir défié, parce que c'est ça, un créateur, ça demande d'être défié, ça demande pas d'être cajolé, et juste encouragé, quoi qu'on a beaucoup besoin de d'encouragement, mais je pense que les créateurs ont d'abord besoin d'être défiés, de regarder, vous êtes capable de faire ça, ben allez-y, puis René y est allé, puis je suis très content de pouvoir le dire.
André, il y a de la sonorité dans plusieurs des installations. Tu as parlé de 17, je crois, quelque chose comme ça. Comment tu qualifierais ces sonorités-là? S'il y avait un mot pour les qualifier là-dessus, qu'est-ce que ça évoque pour toi, les sonorités que Lucier a inventées?
Au départ, le défi, c'était inouï, puis pour moi, ça reste des sons qui sont très, entre guillemets, qui sont très bizarres, parce que j'ai demandé à René à ce que ces sculptures-là qui viennent d'on ne sait où. On ne sait pas où elles s'en vont, mais on ne sait pas d'où elles viennent non plus. On peut même pas dire que ça ressemble à des martiens ou à quoi que ce soit d'autre. Ce sont des êtres qui font à la fois un petit peu humaines, c'est-à-dire de caractère humain, un petit peu végétal, un peu animal. Alors, ces créatures-là avaient besoin d'un son tout à fait particulier. Et donc, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à ta question, parce que c'est pour moi-même, ça reste encore, à chaque fois, je suis surpris, je suis content du fait que moi-même, celui qui commande la musique, qui peut être surpris du résultat, ça me fait bien plaisir.
André, comme tu as du mal à répondre à ma question, je vais t'en poser une autre à l'égard de ton travail d'artiste visuel. Est-ce que c'est un projet, ça, qui t'a amené sur des terrains de compromis par rapport à ta pratique visuelle d'artiste, là? Est-ce que tu t'es senti vraiment dans ton chemin allant, ou si ça a été un contraignant, ce projet-là, pour l'artiste?
Avons-nous 3 heures? c'est un projet qui est très ample. D'abord, je répète que la ville voulait de l'audace et de l'innovation. Alors ça, c'est toujours un bel air de dépense. Ça fait plaisir à entendre. Mais oui, ce projet-là comporte d'immenses contraintes. Mais il m'a fait découvrir aussi l'aspect contraire des contraintes, c'est-à-dire que c'est un projet qui m'a amené à développer d'autres ressources qui, chez moi, qui étaient plus inconnues. Et je peux vous dire que, par exemple, juste au niveau de la gestion du dossier, j'ai travaillé avec au moins 40 de personnes, dont 15 de personnes à l'atelier du bronze. J'ai travaillé avec Pro Automation, j'ai travaillé avec des individus aussi. De toutes sortes, ce sont des artisans, ce sont des techniciens, ce sont des professionnels. J'ai travaillé, et quand je vous dis 40 de personnes, je ne compte pas tout le personnel de la ville qui a collaboré à la mise en place de l'œuvre. Donc, vous imaginez que, oui, il y a des contraintes, mais il y a le fait merveilleux pour moi, par exemple, dès l'instant où on a su qu'on était l'équipe lauréate, côté Lily Cardas et moi, on s'est tourné tout de suite vers Avatar, qu'on connaît bien ici dans le coin, Et on est allé cogner à la porte, donc, et on a rencontré Mario Liman, et c'est avec lui qu'on a mis au point nos premiers vrais tests de son, et c'est grâce à cela qu'on a effectivement, on est devenu l'équipe lauréate. Alors, moi, je suis très fier, oui, les contraintes, mettez-en, on peut vous en parler pendant, on disait 2 heures, 3 heures, mais il faut voir l'aspect positif là-dedans. On a tout de suite pensé d'utiliser nos ressources ici même. On a fait travailler des entreprises de Québec. L'entreprise la plus éloignée de notre centre, c'est Inverness, qui est la région à côté, la région de l'érable. C'est Inverness parce que c'est la capitale du bronze, pratiquement au Canada, ou en tout cas au moins au Québec, et leurs travaux rayonnent de par le monde. Alors ça, c'est nos plus loin. Tous les autres intervenants sont d'ici, de la ville et des proches environs. Alors, vous voyez, on parlait de contraintes, mais il y a aussi, contrairement aux contraintes, il y a beaucoup de plaisir à utiliser des ressources locales puis à mettre en valeur ces ressources-là.
Alors André, bon, c'est bien beau de parler de tout ce concept-là, mais comment les gens maintenant, une fois qu'ils sont dans un des lieux où sont ces attracteurs, comment on peut vivre l'expérience, je dirais, au maximum?
Par rapport aux sculptures interactives, il faut savoir qu'il y a un détecteur de distance qui est visible à l'œil nu, là, à peu près à environ à 2,5 mètres de haut, on voit un détecteur de distance. Il faut que le spectateur accepte de ralentir le pas. Il faut que le spectateur s'approche de la sculpture. Il n'est même pas obligé de toucher. Je vois plusieurs personnes essayer de toucher ici ou là. Et on n'est même pas obligé de toucher. Il y a juste le fait qu'on s'approche et il n'y a pas un déclenchement automatique. C'est pas parce qu'un petit chien va passer face à la sculpture que ça va se mettre à faire des sons et lumières. Ça prend un délai de au moins 4-5 secondes. Dans certains cas, c'est même plus. Alors, il faut que le spectateur à une relation réelle, c'est-à-dire qu'on s'approche, on est un petit peu patient, on peut même aller voir la voisine, l'autre sculpture qui, elle aussi, est interactive, et tout à coup, oups, c'est la première qui va répondre, on est en train de déclencher la seconde. Il y a un côté très ludique dans cet aspect-là.
Donc, c'est là jusqu'aux prochaines années?
Ben, c'est conçu, d'abord, le bronze est conçu pour durer, au moins quelques éternités, d'une part. Et le côté technologique, il sera toujours à améliorer au fil des décennies, sauf que la technologie a été vérifiée pendant 3 hivers. Nous sommes au 4e. La ville, avant d'accepter le projet, ils ont tenu à avoir test par-dessus test par-dessus test. Donc, on a 3 hivers où les sculptures ont fait leurs preuves et ça fonctionne. Évidemment, tout le matériel qui est inclus présentement dans les sculptures, c'est du matériel neuf. Quand je vous dis que ça a fonctionné pendant 3 hivers, c'est que nous, on a fabriqué un prototype en bronze avec les vrais éléments qui produisent le son. Et donc, on peut dire que oui, ça fonctionne, ça va fonctionner longtemps. Il va y avoir, évidemment, comme toute autre chose électronique, il va y avoir des ajustements à faire. Ça, c'est le pari que tout le monde a fait aussi, là.
Ben écoute, on ira demain et après-demain et l'an prochain. Merci beaucoup, André, pour ce projet vraiment intéressant dans la ville de Québec.
Je vous souhaite quelques éternités pour entendre aussi. On peut se souhaiter ça.
On peut se le souhaiter. On y sera. Merci.
Merci beaucoup à vous. Wow.
Et c'est sur ces excentricités sonores de René Lucier qu'on va se laisser. Ben merci Gaëtan, la mise en onde, et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être avec nous. Et ben écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Nous aurons très bientôt, si c'est pas la semaine prochaine, c'est très bientôt, Béchard et Hudon qui vont faire partie du menu du prochain Mois Multi. Et on vous donne rendez-vous, si ce n'est ici, ben c'est du moins au Mois Multi qui va commencer très bientôt et qui va occuper les locaux de Méduse pendant tout le mois de février.
Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.